17h à Yaoundé, c'est l'heure du journal. Une présentation de Larissa Ngono et Maureen Wanzi-Wilaï.
Le 17-18 sur le poste national. Mesdames, messieurs, bienvenue. Les titres du journal.
African countries have been told to use their mineral resources as bargaining leverage for economic and development negotiations. Representative of the President, Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Diangute made a statement at the start of a conference for ministers of mines of ACP countries today in Yaoundé. The context, issues and challenges of the Cameroon International Mining and Exhibition Convention will be examined in our focus of the day during the magazine segment of the 5 to 6.
Yaoundé, plaque tournante de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Les ministres en charge des mines de l'OACP sont en conclave depuis ce matin. Dossier urgent et brûlant, la valorisation du potentiel minier du Cameroun et partant d'Afrique centrale. Vous entendrez à ce propos le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangouté, représentant le chef de l'État à l'ouverture officielle. Prolifération de messages subversifs anti-républicains, le recadrage du ministre de l'administration territoriale. Paul Atanganji, dans un communiqué de presse, siffle la fin de la récréation. Les acteurs politiques apôtres de la déstabilisation répondront de leurs actes, dixit Paul Atanganji. La sortie du Minad rencontre l'adhésion de la classe politique. Réaction à suivre dans cette édition.
And government takes bold steps to beat back food shortages in the country as the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobe, today in Ngaoundéré launched an emergency project to combat food crisis in Cameroon.
Et puis en sport, nous irons vivre l'enthousiasme des athlètes à l'aube du kick-off des Jeux universitaires à Garoua. C'est tout pour les titres.
Le 17-18, c'est 60 minutes de nouvelles et d'actu prospective sur les grands moments de la nation. Le focus du jour. Le sport, l'actu international. Le grand reportage, l'interview et l'invité du 17-18 pour vous informer en direct du poste national de la CRTV.
Merci à toutes et à tous de nous renouveler votre confiance. Le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangouté, appelle à la valorisation du potentiel géologique du Cameroun et de l'Afrique centrale dans un cadre mutuellement bénéfique. Le temps est venu de passer du potentiel au réel, a-t-il précisé, en sa qualité de représentant personnel du chef de l'État, Paul Biya. Il a procédé ce jeudi à l'ouverture officielle de la réunion des ministres en charge des mines de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, conjointement avec la quatrième édition de la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun. Chose vue et entendue, Laurentine Bocono.
Ils sont venus, ils ont vu, ils ont touché du doigt des lingots d'or de 2 kg d'une valeur de 80 millions de francs CFA chacun. Tous des échantillons de calcaire, de bauxite, de manganèse, de lithoine et j'en passe. Suffisant pour faire entendre chants, trompettes et tambours. Le Cameroun est un véritable scandale minier qui s'enorgueillit ainsi d'accueillir au même moment et sous le même toit deux événements d'une importance capitale. Émerveillé par la pertinence des thèmes choisis, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangouté, s'en réjouit.
Deux thèmes seront au centre des travaux. Le premier était ainsi libellé, je cite, « le renforcement de la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique, les Caraïbes et les Pacifiques pour une meilleure stratégie de développement des minéraux critiques de la transition énergétique. » Le second porte sur « de la transition du potentiel géologique à la mise en production des gisements miniers comme moyen de renforcement de la croissance économique dans la sous-région. » L'importance de ces deux thèmes n'est plus à démontrer. Dans un contexte marqué par une demande de plus en plus croissante des matières premières, il me semble à ce stade que la transformation des dix ressources devient pour nous une question incontournable et l'industrialisation de nos pays une nécessité.
Création d'emplois, partenariat, collaboration doivent être une responsabilité partagée dans la prise des décisions.
L'accent devrait être mis sur la transparence des revenus de l'industrie extractive et la définition d'une stratégie de coopération internationale qui serait profitable à tous. En effet, pour les pays producteurs que nous sommes, il est d'un grand intérêt que les négociations avec les opérateurs des industries extractives débouchent sur une sécurisation des revenus substantiels en compensation de l'exploitation de notre capital naturel.
Au palais des congrès de l'une des collines qui surplombe la cité capitale, les oriflammes de 79 pays de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique flottent pour célébrer la nouvelle vision d'exploitation des mines. Ce nouvel engagement démontre à suffisance la volonté des pays en voie de développement de relever tous les défis pour faire du développement des industries extractives une priorité. Laurentine Bekono, CRTV.
The Prime Minister, head of government, has reiterated the need for mining countries in Africa to use their resources as a bargaining chip for economic growth and sustainable development. Joseph John Gute was speaking today in Yaoundé while representing President Paul Biya at the official opening of the meeting of ministers of mines of ACP states and the Cameroon International Mining and Exhibition Convention. Details with our Star Building correspondent, Christian Chartam.
Critical minerals, untapped jewels, and underground riches were on top of the agenda as ministers of mines from countries of the Organization of African, Caribbean, and Pacific States, ACP, gathered for the start of their three-day meeting at the Yaoundé Conference Center. Equally present were members of cabinet, members of regional bodies, and international investors of the mining sector. The Secretary General of the Organization of ACP Countries, Georges Robelo Pinto, and the head of the EU delegation in Cameroon, Jean-Marc Chatenier, in their different speeches, highlighted the opportunities which critical minerals provide in powering development for their host countries. But for this to happen, the two men said solid partnerships are needed to ensure sustainable and equitable exploitation of minerals. The acting Minister of Mines, Fu Callistus Gentry, who presented a rundown of short-term and long-term mining projects ranging from iron ore, gold, and bauxite to cobalt, said Cameroon is moving from a country of potential to a producing and processing country of critical minerals.
With a view to improving the well-being of mankind, Cameroon plans to implement and develop in conjunction with the European Union a mining policy focused on the exploitation of minerals critical to the energy transition. With this in mind, the Cameroon legislator, through the Mining Code, has stipulated that at least 15% of minerals from the mining sector must process locally.
The Prime Minister, head of government, Joseph Dion Gute, who represented President Paul Biya at the ceremony, in his keynote speech, said Cameroon and ACP countries need to capitalize on the relative scarcity of minerals on the world scene. Joseph Dion Gute said Cameroon, under the guidance of President Paul Biya, is bent on exploring all avenues for development offered by the mining sector. Christian Chiatam, CRTV, the Yaoundé Conference Center.
Et pour tirer meilleure partie des richesses minières dont regorgent les pays membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, une stratégie est en cours d'élaboration à Yaoundé dans le cadre de cette réunion des ministres des mines de la dite organisation ouverte à l'hôtel Hilton par le ministre par intérim des mines et du développement technologique du Cameroun, Fou Callistus Gentry, en présence du secrétaire général de l'OACP, Georges Rebello Tchikoti. Il est notamment question d'harmoniser les points de vue pour une position de l'organisation sur les matières premières critiques. Marie-Monique Mbozo nous en dit plus.
Libérer le potentiel de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, assurer les transitions énergétiques et numériques grâce aux matières premières critiques, c'est le thème de la réunion des ministres des mines de l'OEACP qui se tient à l'hôtel Hilton à Yaoundé. Ce thème traduit les opportunités mais aussi les défis pour les pays de l'OEACP qui revendiquent 80% des réserves minières du monde. Le Cameroun et à ses côtés la République démocratique du Congo se prévalent du statut de scandale géologique au vu de la richesse de de leur sol et de leur sous-sol. Mais comme l'a souligné le secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, Georges Rebelo Chikoti, ces pays riches n'ont malheureusement pas les infrastructures technologiques pouvant permettre de bénéficier de ce potentiel. Et c'est là le grand défi à relever. La solution étant dans la solidarité des pays membres de l'organisation à s'offrir ensemble les moyens et les technologies leur permettant d'être indépendants et de transformer leurs richesses minières pour en faire un pôle de développement. Le plaidoyer du ministre des Mines et du Développement technologique par intérim du Cameroun, Fou Kalistous Djenkri, allait dans le même sens, invitant les porteurs de richesses à mettre tout en œuvre pour bénéficier de leur potentiel minier. Au moment où la demande en matière première critique se fait de plus en plus forte, les ambassadeurs des pays doivent produire un document exposant clairement leur position quant à l'approvisionnement sécurisé et durable en matière première critique et le choix du lieu de leur transformation.
En rappel, les sites miniers du Cameroun couvrent une superficie totale de 160 000 km², un riche potentiel minier qui varie de l'or aux terres rares, en passant par les métaux de base et l'uranium, concentrés dans les régions de l'ouest de la Damawa, du nord, du centre et de l'est. L'est justement où la semi-mécanisation, aujourd'hui de mise dans l'industrie minière, charrie beaucoup d'espoir. Elvis Nguimozon, reportage.
L'époque des pratiques artisanales dans les sites miniers de l'Est est désormais révolue. Madame Michel, maire de Goura, et Abba Lévy, maire de Ouli.
Ça qui est à la mode, semi-mécanisé, c'est lorsqu'on utilise les engins, les pelles excavatrices.
Nous avons vu l'introduction des engins tels que les proclins, les pelles chargées de la benne.
La semi-mécanisation aujourd'hui de mise dans l'industrie minière à l'Est a charrié beaucoup d'espoir. Madame Michel, maire de Goura.
Là, on peut réussir à avoir une certaine quantité d'or. Avant, là, ça se faisait de manière artisanale. Il y avait beaucoup de pertes.
Des espoirs très vite déçus du fait d'une dégradation rapide de l'environnement. Abba Lévy, maire de Ouli.
Il y a l'abandon profond de 30 à 40 mètres, par exemple 50 mètres. Il y a la destruction sauvage de la nature et de l'environnement.
Et Madame Michel, maire de Goua.
Il y a la dégradation de l'environnement qui est poussée. Que les populations ressentent le fruit de l'exploitation.
Tous les magistrats municipaux appellent à un respect des cahiers de charges. Béatrice Guimaison, CIA TV.
Cameroun is hosting a two-day meeting of the Organization of African, Caribbean and Pacific States, OACPS. The Yaoundé event taking place parallel to the fourth edition of the Cameroon International Mining and Exhibition Convention is holding in the presence of the Secretary General of OACPS, His Excellency Georges Rebelo Chikoti, and Cameroon's Acting Minister of Mines, Professor Fou Kalistous Djenkri. Belinda Shaw tells us more.
African, Caribbean and Pacific are rich in key critical raw materials required to drive the global green and digital transitions. In the regard, it is imperative that the OACPS harness this mineral wealth to advance value addition, beneficiation and industrialization. His Excellency Georges Rebelo Chikoti is the Secretary General of the Organization of African, Caribbean and Pacific.
Far too many of our mineral-rich members lack the necessary infrastructure, technology, and capacity to fully harness their potential benefits. No wonder UNCTAD further reports of a potential gap in investment of $180 to $270 billion in the period of 2023-2030.
The implementation of a coherent and complementary set of policies and support interventions will promote sustainable economic development in member countries. Discussions in a session on development finance and investment in critical raw materials will enable ministers of mines and senior officials from 79 OACPS countries to explore avenues for financial support and investment in critical raw material projects in their respective countries and regions.
The fourth edition of the Cameroon International Mining and Energy Convention and Exhibition has started in Yaoundé with participants brainstorming on strategies to improve the mining industry on the continent for sustainable development. In the following analysis, Sam Lingam says the local production and processing of mineral resources remain essential for the mining sector to fully contribute to economic growth and national development.
Cameroon is endowed with huge mineral resources, including gold, diamond, bauxite, rutile, cobalt, and many others. Despite this mineral potential, the non-oil mining sector accounts for merely 1% of gross domestic product in the country, a rather disturbing reality with the country's 2035 vision, where Cameroon intends to develop a strong industrial and mining sector so as to compete with other emerging and middle-income countries. Activities developed in this important sector are essentially artisanal and are only carried out in some regions, not really contributing to the improvement of the living conditions of the population. Cameroon has been striving to move from this position to become a mining producer, a country using its mineral resources to sustainably boost its socioeconomic development, as efforts are being made for Cameroon to transform its huge mineral potential into development tools to sustain the socioeconomic growth of the country. Serious thoughts and actions should be given to local processing in different mineral projects.
La Conférence internationale des mines et expositions du Cameroun qui mobilise les 79 États membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique a donc officiellement démarré ce jeudi au Palais des Congrès de Yaoundé. Le Cameroun accueille les assises qui visent à faire des industries extractives une priorité pour renforcer la croissance économique et la transition du potentiel géologique. On en reparle tout à l'heure dans la partie magazine du 17-18. C'est le focus du jour. 17h passées de 16 minutes, nous annonçons des actes de nomination de responsables au ministère des Arts et de la Culture à suivre vers la fin de ce journal et deux décisions du ministre des Forêts et de la Faune. Mais tout d'abord, Maureen, ce communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi.
That's right, Larissa. The government communiqué on attacks in the Boyo subdivision of the Northwest region in the morning of Monday, 20th May 2024, as people were making their way to various grandstands to celebrate the National Day, two terrorist attacks were carried out by separatist fighters in the Boyo division of the Northwest region. In the first attack, which took place in the Bello subdivision, the terrorists, dressed in the uniforms of our defense and security forces, ambushed at about 100 meters from the Bello Council, opened fire at close range on Mr. Ngong Innocent Akiambom, mayor of the Bello Council, and Mr. Angi Aaron Ngong, subdivisional inspector of basic education. The two personalities who were on their way to the grandstand unfortunately succumbed to their injuries. As they were immediately pursued, one of the assailants was neutralized while the others are being actively sought. Another attack occurred in the Njinikam subdivision, where terrorists positioned on the slopes of the mountains fired heavily towards the town without any casualties. Their aim was to sow fear among the population and disrupt the smooth running of activities related to the National Day. Thanks to the prompt and energetic response of our defense and security forces, these outlaws were repelled and the population continued to go about their business in peace. The government of the Republic strongly condemns these cowardly and despicable attacks on lawless individuals directed against both representatives of the state and innocent citizens who were enthusiastically mobilized for the celebration of our country's National Day. The government once again takes this opportunity to urge the people of the Northwest and Southwest regions not to succumb to any form of intimidation, as well as reassuring them of its resolve and that of our defense and security forces to do everything possible to reestablish order, peace, and security in the regions concerned. It is signed by the Minister of Communication, government spokesperson, René Emmanuel Sadi.
Et puisque nous parlons de terrorisme, Maureen, intéressons-nous à la lutte contre le financement de ce fléau avec les organismes à but non lucratif qui s'outillent sur les risques d'une participation au processus d'infiltration ou de blanchiment de capitaux. Un programme de formation à l'initiative des ministères des Finances et de l'administration territoriale s'est ouvert pour se faire ce jeudi à Yaoundé. Deux jours pour faire le tour du phénomène, du cadre réglementaire aux mesures répressives possibles. La session première d'une série de quatre est présidée par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, en présence du secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, Rabia Toufou Daoutou.
Le terrorisme sévit à travers le monde. Le Cameroun n'est pas épargné. Au-delà de la riposte des forces de défense et de sécurité, il y a la nécessaire réponse d'autres institutions nationales. Il faut empêcher toute forme de financement souterrain de la pratique criminelle. De l'avis des experts de la NIF, l'Agence nationale d'investigation financière, blanchiment et infiltration des capitaux ont leur vecteur cible, les organismes à but non lucratif. Becky Elvira Bisson.
Le financement du terrorisme pose un risque pour la stabilité nationale et aussi la paix. Donc c'est pour ce fait que le ministère des Finances, le ministère de l'administration territoriale, avec les partenaires comme l'UNODC, ont décidé d'organiser cet atelier afin de les sensibiliser qui peuvent être utilisés abusivement pour le financement du terrorisme. Parce qu'il y a souvent des dons qui peuvent être utilisés, détournés à des fins de financement du terrorisme.
Pour mettre à jour les organismes visés, quatre sessions de formation sont prévues dans les régions du sud, de l'est et du centre. La première est en cours depuis ce jeudi à l'hôtel Montfébé de Yaoundé. Salomon Djé, membre magistrat de la NIF.
Le Cameroun a des faiblesses qui ont été identifiées, pas seulement au niveau des ONG, au niveau de l'organisation générale du pays, au niveau de la justice, au niveau même de la NIF, au niveau de la police. Donc actuellement, nous sommes sous liste grise et nous nous battons justement pour en sortir et pour qu'on voit que notre système financier est bien propre.
L'entame de la session de deux jour présidé par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, fait office de rappel. Le Cameroun est sur la liste grise du groupe d'action financière. Ces mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme restent en deçà des attentes.
On en vient à présent à cette actualité relative à l'élection présidentielle de 2025. Gare aux acteurs politiques hantés par les démons de la déstabilisation. Ils seront traduits devant les instances judiciaires. La mise en garde est du ministre de l'administration territoriale. Dans un communiqué de presse, Paula Tanganji rappelle à l'ordre les leaders politiques qui menacent de mettre le pays à feu et à sang si leurs intérêts ne sont pas satisfaits. C'est au travers de messages tendancieux, anti-républicains et même irrévérencieux vis-à-vis du président de la République diffusés ces derniers jours. Aucun écart ne sera toléré et la classe politique y adhère, tout en précisant que l'heure n'est pas aux querelles, mais à l'apaisement, à la reconstruction de la paix et à l'unité nationale. Clarisse Djanga a recueilli quelques avis et voici son reportage.
Des contenus appelant à la rébellion en cette veille d'année électorale, Paula Tanganji n'en veut pas. Dans une communication publiée ce jeudi 23 mai, le ministre de l'administration territoriale met en garde les anti-républicains. Acte salutaire selon Simon-Pierre Idiba, maire d'Obala, président du bureau de section du RDPC de la Lekki Est.
Les Camerounais ont accueilli ces vidéos avec beaucoup de déception. Ils sont matures. Vous pouvez penser que ce genre de ton et de message, à une période comme celle-ci au Cameroun, des décennies après l'ouverture démocratique imprimée par le président Paul Biya, que des leaders de ce niveau puissent encore tenir ce genre de langage pour emprunter un peu au populisme et pouvoir mieux se positionner par rapport aux autres pour prendre la direction du Cameroun. Au RDPC, nous pensons que c'est inacceptable.
Le président national du Front des démocrates camerounais, FDC, s'inquiète pour sa part du caractère disproportionné des discours prononcés dans un contexte déjà fragilisé. Denis Emilien à Tangana.
La retenue devrait indiquer tous les acteurs politiques que nous sommes, surtout que notre pays, en ce moment, est sujet à beaucoup de difficultés. Nous avons la crise anglophone, Boko Haram dans le nord. Je crois que le moment n'est pas indiqué de jeter de l'huile sur le feu. On a tous besoin de la paix.
Simon-Pierre Ediba.
Ce discours ne passera pas. Ces menaces et ces injures à l'endroit d'un patriarche comme le président Paul Biya qui méritent respect, qui méritent reconnaissance, que ce genre d'injures ne seront pas tolérées et que la démocratie va triompher.
Bien qu'elle soit l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, la liberté d'expression politique doit être encadrée.
Également dans ce journal, Maureen, le lancement d'un projet dédié à la sécurité alimentaire à Ngaoundéré par le ministre de l'Agriculture, Gabriel Mbaye-Roubé.
That's right, Larissa. The Minister of Agriculture and Rural Development has reiterated government's persistent efforts in fighting food crisis in Cameroon. Gabriel Mbaye-Roubé was speaking in Ngaoundéré while launching the emergency project to combat food crisis in Cameroon in the presence of the resident representative of the World Food Programme, Wanja Karia. Let's get details from Amos Enonyaket Agbo.
The emergency project to fight food crisis in Cameroon consists of the provision of emergency, financial and nutritional assistance to some vulnerable persons as well as pay labor-intensive public works for resilience-related activities. It is a joint initiative of the Cameroon government, the World Bank and the World Food Programme. Wanja Karia is the resident representative of the World Food Programme in Cameroon.
This project addresses food insecurity in various components. The first one is addressing immediate hunger. The government was very keen to ensure that communities are also engaged in building assets.
After launching the project, the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbaye-Roubé, accompanied by the resident representative of the World Food Programme in Cameroon, Wanja Karia, visited some areas of intervention of the World Food Programme in Ngaoundéré, notably a dairy farm, a mini milk production and transformation factory, a bakery and a homegrown school feeding center at Government Primary School, Baker Matari. Amos Enonyaket Agbo, CLTV News, Ngaoundéré.
The President of the Republic, Paul Biya, has offered the sum of 100 million CFA francs for the purchase of some basic needs for Nigerian refugees on voluntary repatriation. This was announced by the Governor of the Far North Region, Mijiyawa Bakari, during a tripartite meeting among Cameroonian, Nigerian and UNHCR authorities to lay the groundwork for the repatriation of 20,000 refugees from the Miniyao camp, currently hosting 77,000 Nigerian refugees. Ayuk Jonashu.
The tripartite meeting in Marwa comes against a backdrop of the drastic cut in the food rations of the about 70,000 Nigerian refugees in Minawao due to difficulties to access funding by the World Food Programme. Titus Modakai, representative of the Nigerian federal government.
It's a continuation of the voluntary repatriation of this population with collaboration of UNHCR.
Meanwhile, the acting UNHCR officer for the Far North, Alhaji Abdullahi Safi, clarified that 20,000 refugees have been registered for voluntary repatriation, while the governor of the Far North region, Mijiyawa Bakari, announced that President Paul Biya has made available the sum of 100 million CFA francs to provide basic necessities for the returning refugees.
To buy food items to accompany them back to their area and carry out their daily basis.
While promising that the Borno State government will provide vehicles to transport the refugees back home, Engineer Lawan Abawa Kilbe, envoy of the Borno State governor,
we will continue to extend our appreciation to His Excellency President Paul Biya and Her Excellency Madam Charlton Biya, the First Lady, for all the care and love they have shown our refugees.
The Cameroon government has also provided a 100-hectare piece of land and two tractors as well as farm inputs for the refugees to practice agriculture in order to improve on their feeding and livelihood. Marwa, Ayuk John Ashu, CRTV.
Some 9 persons have been rescued off the coast of Idenau after their boat capsized today at the locality. According to the Southwest Regional Delegate of Transport, Ebong Masumbe, the individuals were rescued by the Marine Marchand Unit of the Delegation of Transport. The delegate has warned persons traveling by boat to ensure that they always put on complete safety instruments. The Spanish ambassador to Cameroon, His Excellency Ignacio Garcia Lumbreras, has offered a cocktail dinner in honor of a Spanish Navy vessel, which is on a 5-day anchor at the port of Douala as part of its patrol mission in securing the Gulf of Guinea. The cocktail dinner, which took place on the Spanish Navy vessel on Wednesday, May 22, was attended by a cross-section of guests from Douala and beyond, including Littoral's Governor Samuel Dieudonné Ivaha Dibua. Cynthia Itim reports that the Cameroon and Spanish governments, through this move, intend to further strengthen maritime defense and diplomatic cooperation between both countries.
On board the offshore Spanish Patrol Navy vessel are Spanish Navy officers who are on a close to 5 months mission along the Gulf of Guinea to continue keeping the waters safe from maritime threats like oil smuggling. The cocktail dinner was an occasion to assess the long-lasting cooperation ties between Cameroon and Spain, whose common mission is silencing illegal activities on the Gulf of Guinea. Ignacio Garcia Lumbreras is Spanish ambassador to Cameroon.
These missions have been going on since 2009, and we have had 15 Spanish vessels coming to Cameroon. We have seen a steady decline in such serious crimes.
Their five-day stay in Cameroon is, amongst other things, dedicated to the exchange of experiences with the Cameroon Navy. Lieutenant Commander Jami Marquez is the commanding officer of the Spanish ship Führer P-46.
We're going to be practicing military cooperation activities, training together while we are on port and when we set out to sea.
The Spanish Navy vessel, which has been in Cameroon since May 21, leaves the Cameroonian waters on Saturday, May 25. Cynthia Etim, CRTV News.
À l'écoute du 17-18 sur le poste national, il est 17h passé de 30 minutes. Je vous donne lecture de ce courrier présidentiel. Correspondance adressée au président de la République, Paul Biya, par le président de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, Engonga et Joe Balthazar, à l'occasion de la célébration de la 52e fête nationale le 20 mai, édition 2024. En voici la teneur. Excellence, Monsieur le Président de la République, au moment où le peuple camerounais s'apprête à célébrer le 20 mai la fête de l'unité, j'ai l'insigne honneur de vous adresser au nom de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et à mon nom personnel mes très vives et sincères félicitations ainsi que mes vœux tout particuliers de bonheur et de prospérité pour votre beau et florissant pays. Je voudrais en cette agréable occasion rendre un hommage spécial à l'appui constant que ne cesse d'apporter votre Excellence à la construction d'un espace communautaire de paix et de stabilité, comme je voudrais aussi saluer la sollicitude toujours plus accrue que vous témoignez chaque jour aux institutions, organes, institutions spécialisées et agences d'exécution de la CEMAC. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression renouvelée de ma très haute et déférente considération, signée Balthazar Engonga Edjo. Parlons à présent de cette dépendance du domaine national d'une superficie de 400 000 hectares dans le département de la Haute-Sanaga, sollicitée par la société Laya Bird Company en 2023. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyebéa Issi, vient de publier une note d'information relative à la situation du dossier de demande de dérogation spéciale pour attribution en concession de la dite dépendance. Il indique qu'en définitive, les espaces correspondants demeurent toujours disponibles dans le statut juridique de dépendance du domaine national pour que puisse être engagée toute procédure nouvelle de concession. Christopher Nkemenye.
La note d'information du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières indique que la société Earbird Company Limited a introduit en date du 2 novembre 2020 une demande de dérogation spéciale pour le lancement à son profit de la procédure de concession provisoire pour réaliser un projet sur 400 000 hectares dans le département de la Haute-Sanaga. La mission d'investigation a été déployée le 22 novembre 2023. En conformité avec les conclusions du rapport subséquent, un accord de principe a été marqué à travers la correspondance du MINCAF du 12 décembre 2023, valant dérogation spéciale. Le MINCAF précise que l'accord de principe marqué ne vaut nullement décision d'attribution en concession provisoire de la dite dépendance. Concernant le cas d'espèce, les responsables des services centraux du MINCAF ont effectivement été déployés sur le terrain et ont travaillé avec les responsables locaux et le promoteur à l'effet de s'assurer de l'implémentation du dit projet. En date du 1er décembre 2023, le rapport de vérification préalable de l'état des lieux du site correspondant a fait état du consentement des chefs de groupement concernés en vue de la mise en place de ce projet. Il en découle précise le MINCAF, qu'à ce jour, il revient au préfet de saisir le ministre du dossier conformément à la réglementation en vigueur. En raison des interrogations multiples et des interrogations diverses enregistrées sur la procédure ainsi engagée et toujours pendante, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a opté de retarder les termes de sa lettre de dérogation du 12 décembre 2023, ce qui aboutit en définitive à la précision sur la disponibilité des espaces dans leur statut juridique et de dépendance du domaine national pour que puisse être engagée toute procédure nouvelle de concession.
Promotion de logements à Yaoundé, la société immobilière du Cameroun SIC a lancé cette mi-journée la commercialisation de 152 appartements au standing et autres espaces de commerce du complexe La Résidence du Fondi, situé au quartier Hippodrome. Le point de presse organisé pour la circonstance a donné l'occasion au directeur général de la SIC de faire quelques projections sur les futurs chantiers qui vont permettre à l'entreprise de densifier l'offre en logement à travers le territoire. Écoutons le docteur Amadou Sardaouna, au micro de Toussaint Bam Anya pour d'autres éclairages.
Nous avons dans notre TIENA au moins 483 milliards pour lesquels nous avons fait appel au gouvernement pour qu'il y ait vraiment un partenariat gagnant-gagnant pour permettre ces constructions. Parce que la planification étant déjà faite, 2024, nous avons déjà lancé la production de plus de 200 logements. Le DAO étant prêt, nous allons lancer un Varroa à la Cité Verte pour que 2025 aussi, qu'on enchaîne avec d'autres éléments, sitôt que nous aurons des financements adéquats.
Get the latest news in Cameroon, Africa and the world only on the 5 to 6 p.m.
Thanks for staying with us. So we value your decision to listen to the 5 to 6 as we get into the magazine segment of the 5 to 6. The meeting of ministers of mines of the Organization of African, Caribbean and Pacific Countries, as well as the fourth edition of the Cameroon International Mining and Exhibition Convention, have been opened today in Yaoundé by the Prime Minister of Government, Joseph John Gout, on behalf of the President of the Republic. Both events will offer a platform for participants to brainstorm on the opportunities of the mining sector, the importance of forming win-win partnerships and strategies to harness the mining potential to power economic growth in ACP countries. The context, issues and challenges of the Cameroon International Mining and Exhibition Convention will be dissected in this edition of Focus of the Day by Oswald Medung, coming up after the break.
La ville de Yaoundé, vous l'avez dit, Maureen, est depuis ce matin au centre des attentions des acteurs du monde minier. La capitale politique abrite deux rencontres d'envergure sous le très haut patronage du président de la République, Paul Biya. Il s'agit de la 4e Convention internationale des mines et expositions du Cameroun et de la réunion des ministres de l'OACP chargés des mines. Édition du CIMEC qui entend explorer les pistes en faveur de la valorisation du riche potentiel en ressources géologiques et minières de la sous-région. Et pour parler de cette importante rencontre, de ces importantes rencontres, il s'agit de deux rencontres, nous avons avec nous dans ce studio Oswald Medung, le chef du service économie à la direction des rédactions radio. Bon après-midi Oswald.
Bon après-midi Larissa, hello Maureen.
La Convention internationale des mines et expositions du Cameroun, Oswald, qui vient d'ouvrir ses portes, est déjà rendue à la 4e édition. Dans quel contexte le rendez-vous de 2024 s'inscrit-il?
Le contexte qui entoure cette 4e édition de la CIMEC est assez particulier. Et vous faites bien de vous poser la question. Il y a d'abord que l'appellation a subi une légère modification, même si le sigle reste le même. Avant, on parlait de conférence. Aujourd'hui, on parle de convention. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça fait une grosse différence. Le point d'ancrage de la CIMEC reste cependant la valorisation du potentiel minier de la sous-région Afrique centrale. Ce sont donc les principaux acteurs du secteur qui sont à Yaoundé pour les discussions, un partage d'expériences et des échanges de bonnes pratiques pour le bien des économies l'économie de leurs États respectifs. Autre particularité, pas des moindres, Larissa, c'est que cette édition du CIMEC se tient en même temps, vous l'avez dit également, de la réunion des ministres des mines de l'Organisation des États des Caraïbes, du Pacifique et d'Afrique et du Pacifique. L'organisation compte 78 États membres et le rendez-vous de Yaoundé est consacré à la valorisation de la mine solide en général et des minéraux dits critiques en particulier, et les deux conclaves se joignent là.
On devine bien en filigrane, Oswald, des enjeux qu'un tel rendez-vous peut charrier.
Larissa, les enjeux sont importants, pour rester prosaïque seulement. Ce n'est plus un secret pour personne, l'Afrique en général est riche dans son sous-sol, mais aujourd'hui il est question de changer de paradigme. Un scandale minier, c'est comme ça que les autres l'appellent. Mais aujourd'hui il est question de changer de paradigme pour ne plus être seulement des pays au potentiel minier reconnu, pour devenir des pays producteurs et qui transforment eux-mêmes leurs richesses. Et seulement, pris sous cet angle, on imagine bien l'impact que cela peut avoir sur les économies des pays concernés. Et même en imaginant, on sera encore loin du compte, Larissa. Et qui dit enjeu, dit aussi défi. Et ce n'est pas ce qui manque ici. Il faut déjà que les États, qui parfois ont des gisements communs, puissent parler d'une même voix. Il faut aussi promouvoir une exploitation et une transformation respectueuse de l'environnement. Ça, c'est important. Et c'est justement pour répondre à ces exigences que la réunion des ministres chargés des mines de l'OACP apparaît comme une aubaine. Les idées d'un partenariat sud-sud, gagnant-gagnant donc, devraient permettre de mieux orienter les politiques où chaque État trouvera son compte. Larissa.
Merci Oswald pour toutes ces explications, des exigences que vous énonciez en l'instant, en phase avec l'appel du Premier ministre chef du gouvernement ce matin à l'ouverture officielle de cette assise. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangouté, appelle à la valorisation du potentiel géologique du Cameroun et de l'Afrique centrale dans un cadre mutuellement bénéfique. Nous vous proposons en guise d'invité du 17-18 un extrait de cette déclaration du chef du gouvernement à suivre après cette courte transition.
The ministers in charge of mining from member countries of the Organization of African, Caribbean and Pacific States, OACPS, are discussing ways of harnessing mineral wealth to advance value addition and industrialization at a three-day meeting that is underway in Yaoundé. It is holding alongside the fourth edition of the Cameroon International Mining and Energy Convention and Exhibition. Cameroon's Prime Minister, Head of Government, Joseph Diangouté, opened the event at the behest of the Prime Minister, the President of the Republic, Paul Biya.
With the aim of transitioning from a country of high potential to a mining producer, Cameroon has implemented a series of measures, among which the adoption of the Law on the Mining Code of 19th December 2023, which stands out as a very significant step. This piece of legislation introduces several innovations, amongst which I would like to highlight the following. The concept of sharing production between 2 and 15%, depending on the case. The obligation to process at least 15% of ores locally. Safeguarding the rights of local communities. Equitable sharing of revenues generated by the exploitation of mining resources and environmental sustainability. I should also like to point out that measures have been taken to encourage semi-mechanized artisanal mining at the expense of inactive exploration licenses. Yaoundé, therefore, was rightly chosen to host these two major conferences, allowing Cameroon, renowned for its hospitality, to share its experience with sister countries. It should be noted that by 2023, Cameroon had launched 4 industrial mining projects. In 2024, this approach will continue with 4 additional projects in accordance with the directives of the President of the Republic, who in his address to the nation on 31st December 2023, emphasized that, and I quote, "When it comes to increasing public resources, we must explore new avenues. In this regard, we believe that solid mining, particularly gold, represents an exceptional source of financial resources. Our country has significant untapped mineral reserves that we need to exploit." Close.
c'est le temps des sports dans le 17-18 avec Samuel Billon en direct dans ce studio. Bon après-midi, Samuel.
Bon après-midi, Larissa. Bon après-midi à tous.
Nous nous intéressons tout d'abord au football. L'entraîneur, sélectionneur des Lions indomptables, Marc Brice, était en visite de travail ce matin au stade de Ngouaïkélé.
Marc Brice était accompagné des autres membres de son staff d'encadrement mis à disposition par les pouvoirs publics. Une visite pour attester de la fiabilité du stade de Ngouaïkélé retenu pour les séances d'entraînement des Lions indomptables dans le cadre de la préparation des rencontres contre le Cap-Vert le 8 juin prochain à Yaoundé et le 11 juin à Luanda contre l'Angola. Pelouse, vestiaire, éclairage, gradin, le stade de Ngouaïkélé est en parfait état de fonctionnement. Voici les appréciations de Marc Brice qui confirme le forfait du défenseur central Jean-Charles Castelletto pour ce regroupement.
On a vu beaucoup de terrain il y a 2 mois déjà. On a décidé de prendre celui parce que le terrain est déjà mieux, top. Notre choix était bien. Être ici et entraîner tranquillement, il n'y a pas trop de gens, il n'y a pas trop de bruit. Je suis content qu'on ait choisi pour ce terrain. Le groupe a le temps de 2 juin avant minuit. Le jour après, le 3, on commence les entraînements pour être prêt le premier match contre Cap-Ferde le 8 juin. Jean Castelletto était gravement blessé. Il ne va pas être prêt. C'est lui qui sort du groupe. C'est à moi de décider pendant cette semaine qui va rester dans le groupe et qui va partir. On va préparer le match comme il faut. On a vu beaucoup de matchs de Cap-Ferde et d'Angola et on est en train de préparer une tactique pour essayer de gagner ce match.
La visite du stade de Ngouaïkélé s'est déroulée en présence de Cyril Tolo, conseiller technique numéro 2 au ministère des Sports et de l'Éducation physique.
Nous sommes à moins de 10 jours du regroupement des joueurs. Nous souhaitons vraiment que les choses s'apaisent. C'est un peu comme si nous étions dans un match de football. Vous savez, quand deux équipes jouent, elles peuvent s'étriper. Mais à la fin du match, on fait quoi? On se salue, on s'embrasse. Les joueurs, ce sont nos jeunes compatriotes. Ils ont à cœur d'assurer la qualification de notre pays lors des 2 prochaines rencontres contre le Cap-Vert et l'Angola. Nous sortons d'une déception à la CAN. Il faudrait retrouver le chemin des victoires. Pour le gouvernement, il n'y a pas de guerre avec la FECAFOOT puisque nous sommes des partenaires. La FECAFOOT a une mission de service public. Nous sommes à quelques jours de la compétition. Laissons d'abord passer les 2 prochaines rencontres. Nous aurons l'occasion de nous asseoir, de discuter, de poser tous nos différends sur la table.
Il n'y a pas de guerre avec la FECAFOOT, dixit Cyril Tolo. Parlons de handball. Challenge Trophy à présent, 3e jour de compétition au Palais Polyvalent des Sports.
Avec 4 rencontres ce jeudi et tout à l'heure à 18h, il y a ce match entre la République démocratique du Congo et le Tchad dans la catégorie des moins de 20 ans. Le Challenge Trophy est réservé aux jeunes joueurs, messieurs, de l'Afrique, des pays de l'Afrique centrale, moins de 18 et moins de 20 ans. Occasion aussi de faire un tout petit peu le tas des lieux de la pratique du handball dans la sous-région Afrique centrale. Voyons ce qui se passe au Tchad avec Hervé Alambata. Il est le secrétaire général de la Fédération tchadienne de handball. Mais d'abord, Jean-Jacques Matamaleu, il est le premier vice-président de la Fédération centrafricaine de handball.
Le handball centrafricain traverse depuis au moins une décennie des moments très, très, très difficiles. En matière d'infrastructure, ça, il ne faut pas en parler. On a presque un seul stade qui se joue à plein air. Il n'y a pas assez de personnel. Les entraîneurs, les arbitres, puis ça n'attire pas beaucoup. Il n'y a pas de mécènes, il n'y a pas de sponsors.
En 2022, nous avons participé à l'IHF aussi au Congo, Brazzaville. Et donc, ça fait notre 2e participation depuis qu'on est sorti des visions du handball. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons traversé à un moment donné des énormes difficultés où je voudrais même dire que le handball était agonisant. Et donc, nous sommes venus le reprendre petit à petit. Et c'était notre premier essai justement pour voir le niveau de ce travail qu'on est en train de faire en interne là. Nous avons N'Djamena, la Ligue de la commune de N'Djamena, qui joue le championnat chaque année. Et cette année, justement, on vient de finaliser les 2 phases, c'est-à-dire aller-retour du championnat. Il reste les éliminatoires pour la Coupe de la Ligue. Et nous avons suspendu pour justement venir à cette compétition.
And now, Larissa, we now talk university games. 19 out of the 22 delegations expected in Garoua for the 2024 university games are already in the north capital city. Director of the University of Garoua, Professor Boubacar Oumarou, has reaffirmed the commitment of all stakeholders in ensuring the success of the sports jamboree. Tanjong Levis Agbor tells us more.
The effervescence is on and different delegations are already on site. The main university campus in Jomasi is hosting three delegations, the University of Boya, the University of Yaoundé 1, and the Gulf University Institute. Just like other sites hosting the athletes, basic amenities have been put in place for the athletes.
Chebe Bongsidwan, I'm from the University of Boya. So far, it's been nice. Only the weather that has changed compared to the one of Boya, because there it's a little bit cool. Yeah, it's hot, but everything is okay. We are doing well.
Everywhere was really set for us and ensured we were well established before they could leave us. And then they provided basic necessities, for example, we had water, food was made available.
The different lodging and sporting sites are equally ready to accommodate the different athletes who are upbeat to emerge triumphant.
So it's a nice experience for us to come this far to Gawa. Though the climate is not as what we have back in Boya, we are going to adapt. We have as objective first to surpass the level we came out last games in Gaoundé. We ended at the quarterfinals. And then the general principle is to go back with the gold medal.
Other delegations are expected in the town of Garoua as final preparations are being made for D-Day. Tanjong Levis Agbo, CRO-TV, Garoua.
Samuel, parlons également des Jeux Olympiques Paris 2024. Le judo est en quête d'une deuxième qualification.
Pour l'instant, c'est une dame qui est qualifiée, qui a décroché le ticket pour le Cameroun en judo. C'est Mounet Djenge Georgica Wesley, moins de 78 kg. Le Cameroun pourrait, vous l'avez dit, avoir donc un deuxième ticket, mais il faut attendre le 22 juin, date de la publication des listes définitives par la Fédération internationale de judo. En attendant, nos Amazones qui sortent des championnats du monde à Abu Dhabi poursuivent la campagne pour se qualifier. Elles participent à l'African Open de Marrakech du 1er au 2 juin au Maroc et à l'African Open d'Abidjan du 8 au 9 juin prochain, c'est en Côte d'Ivoire. Ce sera donc les ultimes rendez-vous de qualification sur le système de gradation de points au classement international. Enfin, Guinée Super League, délocalisation du match Caïman Football Fille de Douala contre Itambon de Nkambé, la rencontre initialement prévue ce vendredi 24 mai au stade de Bonamoussadi est délocalisée au stade de Mbappé-Lépé aux mêmes heures et avec les mêmes officiels.
Samuel Billon pour l'info juste en sport. Merci Samuel.
Merci, bonne fin de journée.
Je vous donne lecture de cet arrêté portant nomination de responsables dans les services déconcentrés du ministère des Arts et de la Culture. Le ministre des Arts et de la Culture arrête, article 1er, sont à compter de la date de signature du présent arrêté nommé au poste ci-après dans les services déconcentrés du ministère des Arts et de la Culture. Délégation régionale du Centre. Délégué régional, monsieur Ateba Assomo Fabien Armand, conseiller principal de jeunesse et d'animation, précédemment délégué départemental des arts et de la culture du Mfundi, en remplacement de madame Ombouda Néambani Flavienne Blanche, appelée à d'autres fonctions. Délégation régionale du Sud, délégué régional, madame Ndezoumou Francine Yaele, cadre contractuel d'administration, précédemment sous-directeur des personnels de la solde et des pensions, en remplacement de madame Né Ntsam Esther, admise à faire valoir ses droits à la retraite. Article 2, les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3, le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 23 mai 2024, signé le ministre des Arts et de la Culture, Bidonpat. Cet autre arrêté portant nomination d'un responsable dans les services centraux du ministère des Arts et de la Culture. Le ministre des Arts et de la Culture arrête, article 1er, est à compter de la date de signature du présent arrêté, nommé au poste ci-après dans les services centraux du ministère des Arts et de la Culture. Administration centrale, direction des affaires générales, sous-direction des personnels de la solde et des pensions. Sous-directeur, madame Ombouda Néambani Flavienne Blanche, conseiller principal de jeunesse et d'animation, précédemment délégué régional des arts et de la culture du centre, en remplacement de madame Ndezoumou Francine Yaele, appelée à d'autres fonctions. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3, le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 23 mai 2024, signé le ministre des Arts et de la Culture, Bidonpat. Cet autre arrêté portant nomination de responsables dans les services déconcentrés du ministère des Arts et de la Culture. Le ministre des Arts et de la Culture arrête article 1er, sont à compter de la date de signature du présent arrêté nommé au poste ci-après dans les services déconcentrés du ministère des Arts et de la Culture. Délégation régionale des arts et de la culture du centre. Délégation départementale du Mfundi. Déléguée départementale. Madame Nke Éléonore Patrice, professeure d'éducation physique et sportive, précédemment en service au ministère des Arts et de la Culture, en remplacement de Monsieur Atoba Assomo Fabien Armand, appelé à d'autres fonctions. Délégation départementale du Mbame Inoubou, déléguée départementale. Madame Po Marie-Noël, professeur d'éducation physique et sportive, précédemment en service au ministère des Arts et de la Culture, en remplacement de M. Ntambidjoka Georges-Antoine Buté. Délégation régionale des Arts et de la Culture du Littoral. Délégation départementale de la Sanaga Maritime. Délégué départemental M. Ntédé Ongono Anissé Gérard, cadre contractuel d'administration, précédemment en service à la dite délégation, poste vacant. Délégation régionale des arts et de la culture de l'Ouest. Délégation départementale de la Menois. Délégué départemental, M. Tangbidjoka Georges-Antoine, professeur des lycées d'enseignement secondaire général, précédemment délégué départemental des arts et de la culture du Mbame Inoubou, poste vacant. Délégation régionale des arts et de la culture du Sud. Délégation départementale des arts et de la culture de l'Anvila. Délégué départemental, M. Owonombarga Michel-Victor, agent contractuel d'administration, précédemment chef de bureau des affaires générales à la délégation départementale des arts et de la culture de l'Anvila, en remplacement de M. Mintounou François Gérard, appelé à d'autres fonctions. Délégation départementale des arts et de la culture du Djaïlobo, délégué départemental M. Ngba Nkoumou Jean-Daniel, instituteur de l'enseignement maternel et primaire, précédemment chef de bureau du patrimoine culturel à la délégation départementale du Djaïlobo en remplacement de M. Mintiene Salomon Patrice, appelé à d'autres fonctions. Délégation régionale des arts et de la culture du Sud-Ouest. Délégation départementale du Ndiane. Délégué départemental M. Njuma Leslie Akama, professeur des collèges d'enseignement technique et professionnel, précédemment en service au ministère de l'Éducation de base, en remplacement de M. Ngoé Naliembe Pascal, appelé à d'autres fonctions. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de taux de nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé le 23 mai 2024, signé le ministre des Arts et de la Culture, Bidonpat. Cet autre arrêté portant nomination de responsables dans les services déconcentrés du ministère des Arts et de la Culture. Le ministre des Arts et de la Culture arrête. Article 1er. Sont à compter de la date de signature du présent arrêté, nommé au poste ci-après dans les services déconcentrés du ministère des Arts et de la Culture. Délégation régionale des Arts et de la Culture de l'Est. Service des Affaires Générales. Chef de service. Madame Mafoma Michel Bertille, cadre contractuel d'administration, précédemment chef de bureau des affaires générales à la délégation départementale des arts et de la culture du Lomé-Djérém, en remplacement de Monsieur Mwangel Bipol Dieudonné. Délégation régionale des arts et de la culture de l'Ouest, service des archives, du livre et de la lecture, chef de service. Madame Ntoutou Clarisse Nina, inspecteur principal de genèse et d'animation, précédemment chef de service des spectacles, des entreprises culturelles et des industries créatives à la délégation régionale du Sud-Ouest, poste vacant. Délégation régionale des arts et de la culture du Sud-Ouest, service des spectacles, des entreprises culturelles et des industries créatives, chef de service. Monsieur Itoé Dixon Namakia, professeur des collèges d'enseignement secondaire général, précédemment chef de bureau des affaires générales à la délégation régionale du Sud-Ouest en remplacement de Madame Ntoutou Clarisse Nina Muté. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de taux de nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé le 23 mai 2024, signé le ministre des Arts et de la Culture, Bidonpat. La suite avec vous, Maureen. Vous avez un texte du ministre des Forêts et de la Faune.
And it's a decision to lift the suspension of a forestry sector authorization. The Minister of Forestry and Wildlife hereby decides as follows. Article 1. the suspension of the forestry sector authorization granted to Société Neufeld Forestière. Nomo Félix Devalois, P.O. Box 6739 Yaoundé, pronounced by decision of 16th January 2024, mentioned above, is with effect from the date of signature of this decision lifted following the final settlement of the litigation that was pending against the aforementioned company for non-compliance with terms of specifications, illegal logging beyond the authorized felling plan, and fraud on documents issued by the Forestry Administration pursuant to the official offense report of 22nd March 2023. Article 2. The Director of Forestry, the Director of the Promotion of Processing of Forest Products, the Head of the National Brigade of Forest Control and Anti-Poaching Operations, Regional and Divisional Delegates of Forestry and Wildlife shall each in their respective spheres be responsible for the enforcement of this decision, which shall be registered and published as and where necessary. It is signed by the Minister of Forestry and Wildlife, Jules Doré Ndongo.
Cette décision portant levée de suspension d'un agrément à l'exploitation forestière. Le ministre des Forêts et de la Faune décide, article 1er, élevé pour compter de la date de signature de la présente décision, la suspension de l'agrément à l'exploitation forestière de la société Neufeld Forestière, Nomo Félix Devalois, boîte postale 6739 Yaoundé, prononcée par décision numéro 0019/D/MINFOF/CAB du 16 janvier 2024 suite au règlement définitif du contentieux ouvert à l'encontre de la dite société pour non-respect des clauses du cahier de charges, exploitation au-delà de l'assiette de coupe accordée et fraude sur documents émis par l'administration en charge des forêts suivant procès verbal numéro 001/PVCI/MINFOF/CAB/BNC/C5 du 22 mars 2023. Article 2, le directeur des forêts, le directeur de la promotion et de la transformation, le chef de la Brigade nationale des opérations de contrôle forestier et de lutte anti-braconnage, les délégués régionaux et départementaux sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera, signé le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré Ndongo. Cette autre décision du ministre des Forêts et de la Faune rapportant l'acte de transaction numéro 2988/TF/MINFOF/CAB/BNC du 12 octobre 2023. Le ministre des Forêts et de la Faune décide, article 1er, est et demeure rapporté l'acte de transaction numéro 2988/TF/MINFOF/CAB/BNC du 12 octobre 2023 conclu entre le ministère des Forêts et de la Faune et la ZIC GC numéro 13. Article 2, la présente décision sera communiquée partout où besoin sera, signé le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré Ndongo.
And that's the end of the 5 to 6 p.m. presented by Maureen Wanzi-Wilai and Larissa Enganam under the supervision of Nathalie Mvogo. Thanks for listening and do stay tuned to programs on the national station of the CRTV.